Laurence Aloua. Tegi Nfatrore. Musique du monde sur RFI.
Bienvenue dans Musique du Monde. Dans une vingtaine de minutes, la session live recevra la chanteuse, violoncelliste, compositrice franco-algérienne. Oh là là, ça fait du monde. Nesrine qui fait ce qu'elle veut de sa voix et de son instrument. Et tout de suite, la sélection mensuelle de Sofian Fanen qui avoue un faible pour le saxophoniste Laurent Bardenne et son tigre d'eau douce en piste avec le titre Oiseau et la voix de Bertrand Belin. Bonsoir.
Qui, 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 qui
Alors ce cui, c'est la voix de Bertrand Belin et le Oh Yeah, ce sera pour Sofiane Fanon qui choisit aujourd'hui sa playlist avec Laurent Barden et le Tigre d'eau douce.
En fait c'était vraiment pour avoir le plaisir d'entendre Bertrand Belin faire cui, c'est ma seule et unique motivation de cette sélection.
Non, 40 ans de travail.
40 ans de travail madame. Oui. Le retour de Laurent Barden avec son groupe qui s'appelle Tigre d'eau douce, qui avait sorti un album déjà il y a 2 ans, qui n'était pas tout à fait satisfaisant mais qui était un beau projet de scène. Et là vraiment ce disque-là je pense est plus abouti, on est dans une sorte de jazz très rêveur et très pop aussi, avec ses petits chœurs derrière, sa chaloupe paisiblement, et en même temps le disque se permet des aventures un petit peu plus poussées que ce morceau-là qui est très paisible comme ça. On l'a croisé chez Ponyhawks, chez Cassius, auprès de Julien Doré, auprès de Dave même, vous voyez, c'est un musicien
saxophoniste,
claviériste, très demandé pour ses talents de musicien de studio, d'accompagnateur, etc. Et aussi créateur de musique auprès de tout un tas de groupes quand même, Limousine, Camille Jardana, etc. C'est un spectre très vaste. Et là, il revient avec Tigre d'eau douce. L'idée, c'est de revenir vers un truc plus jazz, plus fondamentalement jazz. Et en même temps, on voit que voilà, c'est très pop, c'est très chanté, c'est très ouvert sur beaucoup de musique. Le groove peut aussi aller vers le hip-hop. Donc ça va être un des beaux disques. Ça sort fin janvier en France.
Et je pense que Laurent Barden et son Tigre d'eau douce viendront prochainement dans la session live de ces musiques du monde. Vous viendrez ?
Avec plaisir.
Vous les présenter, un petit portrait, 2 minutes, pas plus.
C'est vendu.
Branko Mataja, je ne sais pas si on le prononce comme ça, c'est l'Europe de l'Est et on a besoin d'un petit coup de main. Donc c'est sur RFI. Il s'appelle Branko Mataja, je ne sais pas comment on le prononce, en tout cas je sais qu'il a passé la Deuxième Guerre mondiale dans un camp allemand et qu'après il a filé à Hollywood, aux États-Unis pour oublier tout ça. Sofiane, d'où sort ce disque étrange ?
C'est vraiment un disque étrange, j'en sais pas beaucoup plus que vous, parce que j'ai demandé au label de m'envoyer le livret, ils m'ont dit non, on l'envoie pas encore, c'est un secret.
Ils ne savent rien.
En fait si, ils savent parce qu'ils ont enquêté, c'est le label numéro groupe qui fait cette réédition, qui est une belle maison de Chicago qui travaille beaucoup sur ces sorties, qui documentent beaucoup ces sorties, et en général on apprend des choses. Ils envoient des gens aux quatre coins du monde pour faire des enquêtes. J'aimerais trop faire ce métier là pour aller chercher Madame Mataja là, qui a connu, qu'elle est la 8e cousine de ce Branko. C'était un petit secret des années MP3 en fait, ce disque de Branko Mataja, l'unique disque de Branko Mataja, disque de guitare à moitié balkanique, à moitié grec.
Il est d'origine de l'ancienne Yougoslavie.
Exactement, il a grandi à Belgrade, il a, comme le dit son dans sa courte bio pour l'instant, il a traversé les camps allemands pendant la guerre pour finir sa vie aux États-Unis, en Californie, à faire on ne sait trop quoi comme métier. Et il a enregistré cet unique disque de guitare solo, mais avec beaucoup de couches de guitare comme ça. Je serais curieux de voir comment il a enregistré ça à l'époque, avec du petit matériel. C'est un plaisir romantique, je trouve, ce morceau-là en ce moment.
Sofiane Fanen, vous revenez au 21e siècle avec une énième, mais non des moindres, chanteuse de R&B. Dites-moi, Sofiane Fanen, ça c'est la musique idéale pour du coller serré, du frotti-frotta?
On a besoin de ça en ce moment.
Oui, c'est vrai, il paraît qu'on fait moins d'enfants.
Voilà. Non, puis comme on est tous enfermés à la maison, hein, occupons-nous, comme on dit.
En étant enfermé à la maison, je pensais que les gens allaient se reproduire. Pas du tout, ils ont peur de l'avenir. Donc,
exactement.
On va avoir des problèmes, il va manquer de filles et de garçons.
Lady Ray, revenue prêcher la bonne parole. Lady Ray, on la connaît...
Depuis 20 ans.
Oui, et en même temps, on l'a complètement oubliée. Elle a eu un gros succès en 98, ce qui ne nous rajeunit pas.
Et bah, surtout.
Moi, j'avais 15 ans.
Oh, bah, moi,
donc, gros succès en 98, parce qu'elle avait été repérée par la rappeuse, productrice, chanteuse Missy Elliott et le producteur Timbaland. Excusez du peu, à l'époque c'était vraiment le très haut, donc elle était dans les hautes sphères et effectivement elle a eu un gros succès avec son album de 98 qui s'appelait Make It Hot. Voilà, c'est un programme dès le début dans sa carrière et rien derrière, en gros, on va dire. Elle a eu plein de malheurs. Alors déjà sa vie visiblement n'a pas été toute droite, il y a des labels qui ont fait faillite, on l'a un peu arnaqué, il y a des disques qui sont restés sur une étagère, elle n'a pas réussi à faire la carrière qu'elle voulait et en gros elle a sorti un deuxième album en 2016, il a quand même fallu un temps fou pour sortir un deuxième album.
Quasiment 20 ans.
Voilà. Et elle revient de façon beaucoup plus cohérente. C'est comme si elle avait commencé enfin sa carrière. Là, elle revient avec un album qui s'appelle Piece of Me, qui est produit par Leon Michaels Michael, qu'on a notamment croisé avec Lee Fields, avec la regrettée Sharon Jones et les Dap Kings. Voilà, on est dans quelque chose qui donne envie de réécouter toute la soul des années 60, tous les Stax, les Motown, etc. Bon disque qui ne va rien nous apprendre, mais qui nous donne envie d'entendre de la musique. C'est déjà un bon point de départ.
Sofian, direction l'Italie, encore avec une trouvaille qui date du siècle dernier. Piero Umiliani sur RFI dans les musiques du monde, grâce à Sofian Fanon, on va comprendre, on va découvrir qui était cet homme qui finalement a une production musicale méga célèbre. Mais alors le nom de ce monsieur, on a oublié. Il est mort il y a 10 ans, c'est ça?
Il y a même 20 ans, écoutez, 2001.
Allez, mettons 30. Là. Non, je sais plus.
Nous, on passe les décennies comme ça, les décennies passent.
Mais oui, mais on est international.
C'est un peu le Ennio Morricone de l'ombre. Voilà, c'était l'un des grands compositeurs de musique, de films, de génériques de télévision, de musiques diverses et variées, même dans des publicités, etc. Il a signé un nombre de BO gigantesques. Il a notamment fait ce morceau très célèbre qui s'appelle Mana Mana Pintin, qui était la musique d'un documentaire sur la Suède. Bizarrement. Et il a fait comme ça énormément de choses, des musiques presque pour des films érotiques, des musiques pour des western spaghetti, etc. Une carrière gigantesque, signée parfois sous pseudonyme, enfin vraiment c'est très très labyrinthique comme carrière. Et on commence là depuis quelques années, et en ce moment ça s'accélère, à ressortir, à relire tout ça et à le ramener à sa place, c'est-à-dire vraiment de grands compositeurs de musique à l'image, de musique pour l'image des années 60-70, de l'italique. Ce sont les grandes époques de ces musiques-là. Il y a des coffrets qui sortent. Et il y a notamment, dans cette production, une série de disques du milieu des années 70 qui sont des disques géographiques. Celui-ci, qui s'appelle Polynesia, en fait partie. Il y a un autre disque qui s'appelle Continent Nero, qui est lui aussi consacré à l'Afrique. Il y a deux disques consacrés à l'Afrique et un disque consacré à la Polynésie, sans bouger d'Italie. Ce sont vraiment des disques...
Comme Picasso et l'Afrique.
Voilà, ce sont des disques de rêve, de fantasme. Mais vraiment, je vous encourage à écouter toute sa discographie. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles en ligne, hein, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de disques qui sont disponibles sur les plateformes de streaming. On peut se noyer dedans. J'ai fait ça l'autre jour. J'ai passé ma journée avec Piero Umiliani. Vraiment, j'ai découvert des recoins infinis et j'ai pas du tout fini aussi de tout arpenter. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut découvrir.
Sofian Fanon, l'homme qui arpente. Maintenant, c'est au tour de Ziné.
Je sais qu'un jour ça va se finir sur un dance floor ou une bicyclope. Pas tant de pensées au sinistre. T'inquiète, à mort, je prendrai pas ce virage. Il me reste plus grand chose dans mes poches. Que d'air mort et un ticket de bus. Mes actions coûtent cher. Pas grave, j'ai décidé de miser plus. Je traîne des filles comme si j'étais une sale gosse. Je crois que je vais garder ce truc toute ma vie. Voir les gens dans la mer, je trouve pas ça drôle. Y'a que dans mon cœur qu'il y a de la magie. Quand j'étais petit, je m'étais persuadé qu'on pouvait tout soigner avec une chanson. 10 ans plus tard, j'ai compris qu'on réglait les problèmes et les drames avec une rançon. Je me sens beaucoup moins seul dans le boucan. De toute façon, j'ai plus de plaisir, plus de souffrance. Je me sens beaucoup moins seul quand le loup chante. De toute façon, je veux pas mentir, je veux plus faiblir. Mon cœur n'est plus ça a l'air. Oh yo yo, je pleure dehors, il pleut. Oh yo yo.
c'est un petit bouchon, 23 ans, 22 ans,
24 ans,
avec cette voix très fluette. Ça a dû lui valoir quelques remarques pas toujours très sympathiques. Genre de voix de femme-enfant, quoi. Ziné,
oui.
Rappeuse toulousaine.
Qui habite en Ile-de-France désormais, parce qu'elle travaille avec un collectif qui s'appelle la 75e Session, qui est un collectif qui a apporté beaucoup de choses au rap français francophone ces dernières années, et qui a porté Ziné, qui l'a nourri, enrichi musicalement, qui l'a poussé un petit peu. Ce disque, pour tout dire, est sorti l'été dernier, en juillet 2021.
Oui, avec la pandémie.
Non, surtout en faisant un peu le bilan de mon année, en me disant tiens, qu'est-ce qui m'a vraiment plu cette année, je me suis dit ce disque de Ziné là, en fait il s'est bien installé, et c'est un vrai bon disque, un vrai disque atypique, hein. Elle a pas une voix qu'on attend au premier abord dans le rap, que ce soit féminin ou pas du tout, où on roule des mécaniques. Elle est pas du tout dans ce rap là, elle est beaucoup plus connectée à un rap que dans les années 2000 on appelait bizarrement le rap conscient, c'est-à-dire un rap intérieur, un rap un peu qui assume ses failles, qui assume de pas forcément être toujours dans l'ego trip, c'est-à-dire oh, je suis le meilleur, je vais ramasser tous les billets et je débarque en Cadillac. Elle joue avec ça dans son disque, mais elle est aussi beaucoup dans cette voix intérieure, dans cette sorte de mélancolie très peu urbaine d'ailleurs. C'est pas du tout de la musique urbaine, c'est vraiment de la musique de petits village pour moi. C'est vraiment, on a l'impression que voilà, on part avec la voiture, on sait pas trop où on va voir les potes, mais on s'ennuie de toute façon, voilà, on sort avec les chiens, il y a des vrais beaux moments, c'est très cinématographique, c'est bien écrit, elle a réussi à faire quelque chose de sa voix qui est très à elle, ça évolue beaucoup à travers le disque, il y a beaucoup d'effets sur la voix, mais ils sont très bien utilisés, c'est pas juste on va mettre des effets pour faire joli, c'est on va mettre des effets pour raconter autre chose en termes de son. C'est vraiment un disque, il y a aucun morceau à jeter, il faut considérer que Ziné sera là pour durer.
Merci Sophie Onfanen. Maintenant, on va passer à une autre partie importante de l'émission. C'est la session live avec des musiciens, avec des instruments de musique, un truc affreux, et des gens qui chantent. Alors ça, vraiment, c'est très surfait.
Ça se fait encore ?
Oui. Je suis là pour les défendre. Enfin bref, c'est Jurassic Park, cette émission. Allez, au revoir Sophie. À dans un mois. Merci.
Merci.
Music du monde. Session live.
Et c'est la session live de Nesrine. L'artiste franco-algérienne chante, compose, joue du violoncelle. Après avoir suivi un cursus de musique classique et joué sous la direction de Daniel Barenboim et Laurine Mazel, la jeune femme se souvient de sa famille méditerranéenne en ouvrant ses portes au jazz et à tout ce que son archet veut bien balayer. Elle est accompagnée aujourd'hui par Swelly Mbappé à la basse et Vincent Mignana à la guitare. Nesrine sur RFI.
مشينا معا وكبرنا معا في وقت محدد هذا هو في أي لحظة تمني عظيمة ومستقبلي مفتوح يتبسم كتبت رسالة إلى العالم وذهبت في وقت قليل كيف الإنسان يتجسم الأطفال قد بلان ورشيد بعدان بشوي شوي بشوي شوي I understand بشوي شوي بشوي شوي Way sway, oh la 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 la, I understand. تصفيق حار ملا قلبي في وقت جميل. هذا هو مجرى التاريخ. بشوي بشوي
شوي شوي oh I understand بشوي شوي بشوي شوي oh I understand بشوي شوي oh la 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 la
Nesrin sur RFI dans les musiques du monde.
La session live. Musique du monde.
Nesrin était au chant, Swellim Mbappé à la basse et Vincent Milana à la guitare. Nesrin sort un nouvel album sous son nom, Nesrin. Nesrin qui, en français, signifie fleur sauvage. Bonjour, Madame Fleur Sauvage, comment allez-vous ?
Bonjour.
Le petit bonjour. Ça va ?
Oui, ça va.
Alors, présentez-moi vos musiciens. Déjà, Vincent Milana, que je ne connais pas, qui parle espagnol, comme vous d'ailleurs, assez couramment.
Absolument, parce qu'il est espagnol, effectivement. Voilà. Uma, connu comme Uma oui. dans le milieu,
oui.
et qui est le guitariste et qui est aussi surtout le producteur de l'album avec moi. Donc voilà, on a travaillé pendant longtemps tous les deux pour produire cet album éponyme. Voilà.
Éponyme parce qu'il y a, il y a trois ans, en 2018, vous avez sorti un autre disque sous le nom de Ness. C'était un trio, l'album s'appelait Alam. Là, vous avez décidé alors, de vous mettre en avant, c'est-à-dire que Alam à Nesrin, à part le trio et vous mettre en avant, qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, Ness, en fait, même si c'était la contraction de mon prénom, c'était un groupe.
Oui.
Donc on a vraiment monté ce premier projet, ce premier disque, Ahlam, comme un groupe. On composait ensemble, on réfléchissait ensemble. Et
maintenant, c'est vous la patronne.
maintenant, c'est moi qui ai toute la responsabilité du résultat. Et donc, dans mon deuxième opus, qui est finalement un peu le premier en tant qu'artiste
solo,
les choix se font sous mon entière responsabilité. Et puis les compositions aussi. Donc ouais. c'est ça la différence.
Quel est le titre du premier morceau que vous avez interprété avec vos deux musiciens ?
Risala.
Risala, qui veut dire ?
Qui veut dire la lettre.
La lettre.
En arabe. Et à la base, cette chanson s'appelait Risala min taht al-bahar, ce qui veut dire la lettre dans la mer, sous l'eau. Un peu comme cette idée de bouteille à la mer avec un message dedans, avec un secret dedans. Qui est révélé avec le temps ou qui est révélé à partir du moment où quelqu'un le découvre. Et c'est un peu l'idée de cette chanson-là, c'est un peu les secrets de l'univers ou du monde qui sont révélés petit à petit et dont l'un est le plus important, qui est l'amour.
Voilà. Nesrin, vous êtes violoncelliste, vous avez une formation classique. Qui dans votre famille jouait de la musique ? Parce qu'on n'arrive pas par hasard à la musique classique.
Eh bien, alors la musique classique, c'est un peu le...
Occidental, j'entends.
C'est un peu mon côté culturel européen, justement, parce que moi, je viens d'une famille algérienne dans laquelle la musique a toujours été présente. Mon grand-père, qui était du sud de l'Algérie, donc c'était un nomade, et il a toujours voulu être musicien, et lui, pour sa famille, c'était impossible. Donc il n'a jamais pu l'être, mais disons qu'il chantait et qu'il y avait toujours cette musique dans la famille. Ma mère en a hérité. Et puis, ils sont arrivés en France avec tout cet héritage-là qu'ils m'ont transmis. Mais la musique classique, elle est arrivée par le fait d'être en France. Parce que la musique classique occidentale en Algérie est presque inexistante. Donc, Et quelle était la question ?
Je voulais savoir si vous aviez eu un environnement musical pour vous amener à la musique classique occidentale, faire du conservatoire et jouer du violoncelle, aujourd'hui violoncelle électrique, parce que j'ai vu que vous avez quand même fréquenté des orchestres extrêmement réputés, notamment le East Western Divan Orchestra de Daniel Barenboim. Oui. Vous avez joué combien de temps dans cet orchestre ?
3 ans à peu près.
Je rappelle que c'est un orchestre qui a été créé en 98-99 par Daniel Barenboim, qui est un orchestre qui s'ouvrait à la fois aux jeunes musiciens israéliens et aux jeunes musiciens arabes, donc Syrie, Liban, Égypte, Jordanie. On a bien compris que c'était un instrument de dialogue entre le monde arabe et le monde arabe musulman et le monde juif. Barenboim a été longtemps marié à une magnifique violoncelliste britannique, Jacqueline Dupré. Est-ce que ce sont ces figures-là qui vous ont donné envie de faire du violoncelle ? Parce que Jacqueline Dupré, sous la direction de Daniel Barenboim, c'est quelque chose.
Ouais, c'est incroyable, ouais. J'avoue. Jacqueline Dupré, forcément, a été une des rares femmes violoncellistes dans le monde classique à l'époque, hein, bien sûr, qui faisait une telle carrière. Donc ça a été... On a toujours des muses, on a toujours des exemples à suivre. Donc Jacqueline Dupré en était forcément une, Yo-Yo Ma en est un autre, Ostropovitch était un autre. Mais dans ma famille, juste pour revenir à ça, mes parents avaient une association de promotion d'artistes du Moyen-Orient et du Nord de l'Afrique. Donc à la maison, depuis toute petite, il y a toujours eu la musique arabe andalouse, la musique... orientale, plutôt de Middle East,
Moyen-Orient. Oui. Vous parlez combien de langues ?
4,5.
Oui. C'est quoi la demi ?
C'est l'italien.
Ok. Non, c'est difficile de parler l'italien parce que la langue est la plus vicine del français.
È vero. Mais quand je parle une langue, j'imagine toujours qu'il faut la parler parfaitement. Donc c'est pour ça que...
Vous êtes perfectionniste, en fait.
Un peu.
Un peu maniaque.
Je suis vierge de
signes. De quoi ? Ah oui, d'accord.
Donc je donne toujours cette raison-là.
Je n'y connais rien du tout en astrologie. Vous avez également fait partie de l'orchestre de l'Opéra de Valence, alors Valence en Espagne, alors qui pour le coup était dirigé par un autre grand, Laurine Mazel, qui était connu pour être assez pointilleux, enfin un peu autoritaire. Enfin, est-ce que ça s'est bien passé avec lui ?
Alors ça a été fou ces années avec lui à la direction. Effectivement, il y a eu des grands moments de musique. Je me souviens encore d'une Cavalleria Rusticana, donc un opéra avec de Mascagni, avec un interlude au milieu qui est joué que par les cordes, où je n'oublierai jamais ce moment dirigé par lui. C'était un moment de grâce totale. Les gens, d'ailleurs, à la fin, hurlaient tellement c'était fou, l'émotion qu'il y avait là-dedans. Alors, il était capable de ses grandeurs, comme il avait un caractère très complexe et puis très capricieux. Donc, effectivement, mais alors après, c'est des anecdotes que j'oublierai jamais non plus, sur des crises faites à l'orchestre et tout ça. Enfin, c'était fou.
Je vous propose d'écouter un extrait de ce nouvel album qui porte votre nom, Nesrin. J'ai choisi Mumkin au son. Vous voulez nous présenter Mumkin ?
Merci d'avoir choisi cette chanson.
J'hésite entre Mumkin et Rimiti. Mm-hmm. Rimiti parce qu'il y a le clip, Rimiti parce que je pensais à Chira Rimiti, remettez-moi ça.
Tout à fait.
Et donc au début, je pensais que c'était un morceau de raï, pas du tout.
Bon, non, bref. C'est juste un hommage à Chira Rimiti, c'est pour ça que je l'ai appelé avec ce nom-là, c'est pour lui rendre hommage. Mais Mumkin, en arabe, ça veut dire c'est possible. Donc, on a construit cette chanson avec Uma comme étant une ambiance dans une ville du nord de l'Afrique avec beaucoup de sons, beaucoup de bruit, beaucoup de vie. Qui s'entendent un peu dans la production derrière. Et puis, c'est aussi un hommage aux femmes d'Algérie qui chantent souvent ensemble à l'unisson. Donc, c'est pour ça que tout le refrain est chanté à l'unisson. Et d'ailleurs, j'ai convoqué ma mère et mes sœurs pour chanter les chœurs.
Vous allez faire un clip, si elle est maman, les sœurs.
Inch'Allah.
À la grâce de Dieu. Vaya con Dios. Radio Internationale, on parle en plusieurs langues, c'est normal. On écoute ?
Merci.
Allez. وقلب الإنسان واحد عالماً Sakin, cet extrait de l'album de Nesrine qui s'intitule Nesrine. Comment êtes-vous passé de la musique classique occidentale, donc faire partie d'orchestres symphoniques prestigieux, à cette carrière solo différente? Parce que je ne sais pas comment vous voulez qualifier votre musique. Ce n'est pas de la pop, ce n'est pas de la musique classique, ce n'est pas de l'oriental non plus, même si j'ai l'impression que de temps en temps, votre violoncelle, vous jouez avec vos doigts à faire des quarts de ton sans difficulté. Fais du Nesrine, mais encore.
C'est ça. Je la décris comme un jazz pop avec des racines nord-africaines. Dans toute chanson, même quand elle est chantée en anglais ou quand elle est chantée en français, il y a toujours, que ce soit un rythme ou quelque chose qui va nous rappeler le nord de l'Afrique. Et puis, il y a le côté de l'improvisation, un peu comme dans le jazz, même si c'est pas non plus du jazz. Et il y a la pop dans le sens de la formation de la chanson. C'est une vraie chanson. Avec des couplets, des refrains.
Et dans un album, quand un artiste fait une reprise, c'est jamais un hasard, c'est très réfléchi. Alors moi, j'étais surprise par Vitamine C, parce que Vitamine C, c'est un titre du groupe Can. Le groupe Can, c'est les années 60-70 en Allemagne, c'est le krautrock, c'est Olga Ksukai. Ce sont des gens qui ont fait une espèce de rock progressif, mais qui étaient aussi liés à la scène minimaliste. Je rappelle qu'Holger, qui était un des musiciens de Can, qui est décédé depuis, était un élève de Stockhausen, donc la musique contemporaine.
Absolument.
Vous aimez aussi la musique improvisée, enfin, bah une culture très très large. Hein.
Parce que je trouve que faire une reprise, c'est quelque chose de compliqué, surtout laquelle, pour quelle raison. Can, j'ai découvert ça il y a quelques années et je l'ai découvert en réfléchissant à la manière avec laquelle le mix était fait chez eux. Ils faisaient tout eux-mêmes. Il y a énormément de nuances, il y a énormément de choses qui sont vraiment en rapport avec la musique classique. Et puis, Can a influencé tout le monde. C'est vraiment le genre de groupe qui ont influencé d'une manière presque endémique le rap, le hip-hop américain et le rock des années 90, de Radiohead à Muse et tous ces gens-là, musique que j'écoutais, donc que ce soit le rap ou le rock.
Qu'est-ce que vous ne connaissez pas comme musique? Parce que j'ai l'impression que vous avez une étendue infinie, comme les galaxies, les milliards de galaxies.
C'est plutôt qu'est-ce que j'écoute pas.
Alors qu'est-ce que vous n'écoutez pas?
J'écoute peu de...
D'autotune. Allez, faites-moi plaisir.
Ah bah non, bah plaisante. Non, vous...
Non, vous n'allez pas me faire plaisir. Bon,
non,
okay,
je
ne
vais pas vous faire plaisir parce que l'autotune dans le rap, dans le rail, bien entendu.
Oui.
Parce que dans le rail, c'est essentiel l'autotune et ça existe depuis largement avant toute la trappe de maintenant et tout ça. Donc, je ne peux même pas vous dire ça.
Ça fait
désolée.
Rien. Non, je suis
humiliée. J'écoute pas tout ce qui est pop, un peu type Dua Lipa. En fait, des fois, je me rends compte sur YouTube qu'il y a des gens qui sont écoutés des milliards d'écoutes et je ne connais pas du tout. Et c'est pas le genre de musique qui m'intéresse beaucoup, les nappes de sons un peu mélangées comme ça. Un peu, on prend une personne, on peut l'interchanger.
Ouais, ouais.
C'est pas tout à fait le genre de musique que je vais écouter.
Ouais.
Mais sinon, c'est vrai que la musique, c'est un... Enfin, surtout maintenant, avec les possibilités qu'on a d'écouter... C'est infini.
En ce qui vous concerne, l'autotune, même si vous trouvez un certain plaisir qui est une esthétique derrière ça, vous n'en avez absolument pas besoin pour votre voix. Qui vous a aidé à travailler?
Personne.
Vous avez pris toute seule?
C'est
rageant, hein, parce que ça fait genre hyper doué.
J'ai tellement travaillé le violoncelle.
Oui, mais c'est ça.
Mais c'est marrant parce que c'est la voix qui m'a amenée à la musique de manière générale. C'était ma prof de maternelle. Quand j'avais 5 ans, qui nous faisait faire des chœurs et elle s'était rendue compte que je chantais très juste. Et donc elle me donnait toujours les parties principales. Et elle est allée voir mes parents en leur disant: votre fille, il faut qu'elle rentre dans l'école qui était à l'époque tiers-temps musical à partir du CP.
Cours préparatoire.
Et voilà. Et c'est grâce à elle et grâce à la voix qui était là, en fait, comme héritage peut-être de ma mère, de mon grand-père. Parce que. Il chantait aussi de manière naturelle un peu. Après, c'est vrai qu'avec le travail du violoncelle, on a des techniques que j'ai aussi associées à la voix. J'ai travaillé beaucoup dans un opéra, donc j'entendais beaucoup les chanteurs. Voilà.
Vous en faites ce que vous voulez de votre violoncelle. Vous êtes un peu comme Vincent Segal.
Ah, mais c'est mon exemple, Vincent Segal.
Oui.
J'aime beaucoup.
J'ai vu en concert il n'y a pas très longtemps un Hollandais qui est très bizarre, qui s'appelle Ernst Reisegger. Alors lui, il prend son violoncelle comme une guitare électrique, il le met au-dessus de la tête comme Jimi Hendrix, mais il maîtrise parfaitement la technique, il fait ce qu'il veut, et en plus il a de l'humour. Je ne sais pas, vous sur scène, vous êtes quand même relativement calme avec votre instrument, vous ne lui sautez pas dessus.
Non, c'est... Peut-être que je m'y mette.
À ce prix-là, on évite.
Mais j'ai un rapport avec le violoncelle qui est encore très classique, je crois, dans ma manière de l'appréhender. Donc, ça m'impressionne beaucoup, les violoncellistes qui arrivent à jouer en bougeant beaucoup. J'arrive pas du tout à faire ça, moi. Et je le vois chez d'autres parce que...
Bah, vous chantez déjà, c'est pas mal.
Oui, bah oui, alors il faut penser à tout. Mais c'est pour ça aussi cette situation de je joue violoncelle avec un tabouret haut pour avoir l'espace de la cage thoracique ouvert pour me permettre de chanter. Voilà, donc et puis aussi pour ça l'utilisation de ce violoncelle électrique qui n'a pas de corps et donc qui est plus léger et qui me permet d'avoir plus d'espace.
Alors il y a pas d'âme. Le petit morceau de bois qui est à l'intérieur des instruments à cordes, comme sur le violon.
Ouais, les instruments
acoustiques. C'est le petit bout de bois qui tient le corps de l'instrument qui est à l'intérieur. Et on dit que quand l'âme se casse la figure comme le chevalet, adieu le violon.
Absolument. Mais dans ces cas-là, on pourrait se poser la question sur les guitares électriques et les basses électriques, si elles ont une âme ou pas.
Oh là là. Bon, nous allons faire appel aux ancêtres. Je vous propose de rejoindre vos musiciens. Alors, on a parlé de Uma, donc de Vincent Miniana, qui vous accompagne à la guitare et qui a travaillé sur cet album. On n'a rien dit sur Swahili Mbappé. Bonjour Swahili. On a reçu papa il n'y a pas très longtemps. C'est toute une famille, hein, les Mbappé, c'est une dynastie. Oui. Un mot sur Swahili, c'est un musicien que vous fréquentez régulièrement ou c'est juste pour l'occasion?
Ah bah, je pense qu'on peut dire plus qu'un mot sur Swahili, je l'appelle le roi lion. Mais,
Monsieur Mala aussi, vous pouvez l'appeler.
Et Monsieur Mala, exactement, du c'est nom de son
nouveau
groupe,
projet.
Absolument splendide et super intéressant à écouter, absolument.
Est-ce qu'il sera sur scène avec vous le 25 janvier au Café de la Danse?
Non, alors je ne sais pas si j'ai le droit de le dire.
Ah, Swahili, vous êtes viré. J'ai rien dit.
Il ne sera pas là parce qu'il attend un heureux événement. Donc, il ne sera pas là à cette date-là.
Oui, parce que Swahili va bientôt accoucher. C'est un homme pas très ordinaire.
Mais je suis très heureuse d'avoir Swahili avec moi. Je l'ai rencontré à Valence quand il jouait avec Mayra Andrade.
Capverdienne.
Qui est un super beau concert, c'était génial. Et il a accepté de venir enregistrer sur l'album, donc lui aussi est sur l'album. Et ensuite, on a commencé à peine, il n'y a pas longtemps, de faire des concerts. Donc,
Je rappelle que Swahili est le fils d'Étienne Mbappé, qui est un immense bassiste d'origine camerounaise, qu'on a reçu dans l'émission pour présenter son nouveau projet Nec Plus. Excuse-moi, hein, j'ai dû faire la pub pour papa, on ne peut pas s'en empêcher. Bien, je vous propose, Nesrine, de rejoindre Vincent et Swahili pour interpréter un nouveau et dernier titre, Silent Mood. Un mot sur ce titre? Deux mots?
Silent Mood, c'est dans l'album mon hommage au jazz, aux chansons de jazz de Sarah Vaughan à Nina Simone que j'ai tellement écoutées. Et c'est ma manière à moi de l'avoir réinterprétée, un peu, toute humilité.
Je vous remercie, Nesrine. En piste, Nesrine, Swahili Mbappé à la basse, Vincent Miniana à la guitare et Nesrine évidemment au chant et au violoncelle.
In a silent mood, I know that it is coming. People I don't know already, although
So we say what we want to say, what we want to say. Oh, oh, we think, oh, what we don't convey. So what are the limits of my fragility? So
Nesrine sur RFI, c'est fini.
RFI, la sélection.